Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Bon réveil, il est 7h.
J'étais très très marquée par ce qui s'est passé ici. Déjà parce que c'est ma profession. Et je me suis dit, ce qui lui arrive à lui, ça pourrait même arriver à moi. Et ça fait peur.
De nombreux enseignants hier soir dans la marche blanche à la mémoire de Samuel Paty. Des milliers de personnes qui ont dit non à la barbarie. Des mises en examen dans la journée. 7 personnes dont 2 mineurs seront présentées à un juge antiterroriste. Nous ferons le point sur l'enquête dès le début de ce journal. L'image du jour, ce sera ce soir dans la cour de la Sorbonne. Un hommage national au professeur assassiné. Emmanuel Macron prendra la parole devant quelques 400 invités. Dans ce journal, la crise économique qui précipite des milliers de personnes dans la misère, obligées de demander de l'aide au secours populaire.
J'en reviens pas d'être obligée de demander de l'aide en fait, au secours populaire pour pouvoir manger. Alors que je travaille, c'est particulier. Quoi. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire demain en fait ?
Et puis c'était une soirée de foot avec le retour de la Ligue des Champions. Elle s'est mal terminée pour le PSG battu 2-1 par Manchester United. Un partout entre Rennes et Krasnodar.
Juste après ce journal, Google attaqué par la justice américaine pour abus de position dominante. L'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet, la conférence de presse du diffuseur Mediapro. C'est l'avenir du foot français qui se joue ce matin. L'édito sport de Virginie Fulpin. Nous retrouverons ensuite Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc la fin des gardes à vue dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. 9 personnes ont été libérées, 7 autres doivent être présentées à un juge antiterroriste dans la journée. Il pourrait les mettre en examen, Gladys Laffitte. Alors qui sont ces 7 suspects ?
Alors il y a d'abord 2 collégiens. Ils sont soupçonnés d'avoir désigné Samuel Paty au tueur quelques heures avant l'attaque, contre une récompense de 300 euros qu'ils se sont partagés. Pour les enquêteurs, ça fait peu de doutes. Les adolescents ne pouvaient pas ignorer l'issue violente de la démarche du tueur, parce que la polémique sur le coup enflait déjà depuis plusieurs jours, mais aussi parce que les vidéos du père de l'une de leurs camarades circulaient beaucoup sur les réseaux sociaux. 3 amis du terroriste seront aussi présentés à un juge aujourd'hui. L'un d'eux est soupçonné d'avoir amené en voiture le tueur vendredi matin. Un autre l'aurait accompagné acheter l'une des armes qu'il avait sur lui.
Et puis il y a ce parent d'élève qui avait fait circuler les vidéos pour appeler à la mobilisation contre l'enseignant.
Oui, il est clairement établi par les policiers qu'il a échangé des messages pendant plusieurs jours avant l'attaque avec le terroriste, a priori via une messagerie cryptée comme WhatsApp, et il se serait aussi parlé de vive voix au téléphone. Mais de quoi ? C'est là tout l'enjeu, car si le terroriste a fait part de son projet au père de famille, pourquoi n'a-t-il pas prévenu la police ? L'a-t-il incité à passer à l'acte ? Ce sont ces éventuelles complicités que cherchent les enquêteurs, des questions qui se posent aussi à l'encontre du militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, ami du père de famille. Lui aussi sera présenté à un juge antiterroriste aujourd'hui.
Gladys Laffitte.
Des larmes, parfois de la colère et surtout beaucoup d'incompréhension. Quelques 6000 personnes participaient hier soir à la marche blanche à la mémoire de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine.
Des habitants, des élèves, des amis, mais aussi de nombreux professeurs particulièrement choqués par le drame, comme Julie, rencontrée par Pierre Herbulot.
J'étais très très marquée par ce qui s'est passé ici. Déjà parce que c'était ma profession, ensuite parce que c'était ma ville d'origine. Et ensuite, parce que j'ai eu des petits problèmes, justement, la dernière semaine avant les vacances. On m'a traité de raciste, ou des élèves ont raconté n'importe quoi sur moi, les parents ont été énervés contre moi. Mais oui, je me suis reconnue, parce que, en fait, les choses peuvent prendre d'énormes proportions très très rapidement. Et je me suis dit, ce qui lui arrive à lui, ça pourrait même arriver à moi. Et ça fait peur.
Et Brigitte Macron, elle-même ancienne enseignante, rend elle aussi hommage à Samuel Paty dans une lettre que publie ce matin Le Parisien. Lettre qui se conclut par ces mots. Aujourd'hui avec vous, nous sommes tous profs.
La première dame qui est cas contact, qui ne pourra pas assister à l'hommage national qui se tient ce soir dans la cour de la Sorbonne.
Une cérémonie en présence de 400 invités, dont une centaine d'élèves d'établissements de région parisienne. Elle commencera à 19h30. Jean-Rémy Baudeau, vous avez des informations sur la tonalité du discours d'Emmanuel Macron?
Oui, simple et à hauteur d'homme. C'est comme ça que l'Élysée annonce cet hommage préparé en accord avec la famille de Samuel Paty. Cet hommage s'adressera à ceux qui l'ont connu, précise l'entourage du président. C'est aussi pour cela que la Sorbonne a été choisie lieu symbolique de la transmission du savoir. Illustration du caractère intime de cette cérémonie, c'est uniquement en présence de la famille qu'Emmanuel Macron remettra la Légion d'honneur à titre posthume au professeur assassiné, avant que son cercueil ne rejoigne la cour de la Sorbonne et ses 400 invités. Quelques textes de la musique des chœurs de l'armée française et une prise de parole du président. Une dizaine de minutes où Emmanuel Macron va insister sur le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'obscurantisme. Il reviendra aussi sur le lien de la France avec la liberté de conscience, l'importance de la liberté de pensée et d'expression. Depuis 5 jours, Emmanuel Macron enchaîne les déclarations martiales envers les islamistes. Il affiche sa fermeté, combat sur le terrain politique. Ce soir, il se placera sur un registre plus sobre, loin des polémiques. Un président au chevet d'une famille, d'une communauté éducative et de toute une nation.
Merci Jean-Rémy Baudeau.
Emmanuel Macron, qui s'est rendu hier à la préfecture de Bobigny, le chef de l'État a promis d'intensifier l'action du gouvernement contre les partisans de l'islamisme politique.
Oui, et il a notamment annoncé la dissolution du collectif pro-palestinien Cheikh Yassine, fondé par le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, qui pourrait donc être mis en examen aujourd'hui. L'exécutif veut également s'attaquer à la propagande sur les réseaux sociaux.
Nous ne pouvons plus nous résoudre à assister passivement au déchaînement de la haine sur les réseaux sociaux. C'est bien, mes chers amis, monsieur le député, parce qu'il a été nommément désigné par les réseaux sociaux que Samuel Paty a été assassiné.
Les mots de Jean Castex hier à l'Assemblée, ce sera l'un des enjeux du Conseil des ministres de ce matin. Clément Le Saffre, mieux réguler les réseaux sociaux accusés de laisser passer des contenus haineux ou de promouvoir le terrorisme. Alors, quel est le plan du gouvernement ?
Eh bien, faute de pouvoir contraindre les réseaux sociaux à agir, le gouvernement a opté pour une double stratégie. D'abord, durcir la réponse pénale contre les internautes postant des contenus incitant à la haine. Jean Castex souhaite créer un délit de mise en danger d'autrui par la publication de données personnelles. Alors, selon Matignon, ce n'est pas une révolution, il s'agit plutôt de renforcer un article du code pénal qui existe déjà et qui punit de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende la divulgation d'informations personnelles dans le but de nuire à l'intimité d'une personne. L'exécutif souhaite désormais que la sanction englobe les réseaux sociaux et soit étendue aux atteintes physiques. Le deuxième axe de ce plan, c'est le renforcement de la collaboration entre l'État et les réseaux sociaux. Le gouvernement leur demande de travailler main dans la main avec Pharos. Pharos, c'est la plateforme de la police pour le signalement des contenus illicites sur Internet. Et puis dans le même esprit, l'exécutif va réactiver le groupe de contact permanent qui réunit les représentants des plateformes et les agents du ministère de l'Intérieur. Créé en 2015, il était inactif depuis un an. Mais une réunion en urgence se tiendra la semaine prochaine. Objectif, améliorer la réactivité des réseaux sociaux en cas de signalement.
Clément Le Saffre, hier soir sur BFM, Gérald Darmanin a estimé que les réseaux sociaux avaient une responsabilité énorme dans la mutation du terrorisme. Pour le ministre de l'Intérieur, la question n'est pas de savoir s'il y aura un attentat, mais quand.
Et puis cette déclaration qui pourrait bien lancer une polémique aujourd'hui, Gérald Darmanin se dit choqué par les rayons de cuisine communautaire dans les supermarchés. Il met en cause les grandes entreprises qui gagnent de l'argent sur le communautarisme. 7h08 sur Europe 1. Touchés de plein fouet par la crise économique, ils viennent demander de l'aide au Secours Populaire alors qu'ils travaillent. Reportage à Saint-Brieuc dans la suite du journal de 7h.
Question épargne, la Caisse d'épargne vous répond.
Fatou Fofana, vous êtes experte assurance vie à la Caisse d'épargne. L'assurance vie est le placement préféré des Français. Encore faut-il être bien accompagné pour adapter son contrat au contexte économique et à ses objectifs.
Oui, l'assurance vie permet de se constituer un capital en vue de se protéger financièrement face aux aléas, d'anticiper le financement de ses projets comme préparer sa retraite. D'autant que l'assurance vie permet de rechercher du rendement en investissant à moyen et long terme sur les marchés financiers, ce qui comporte une prise de risque. À la Caisse d'épargne, nous vous proposons des solutions pour accompagner votre investissement selon vos besoins et votre profil.
Quelles solutions par exemple ?
Concrètement, vous pouvez mettre en place des versements automatiques réguliers qui vont atténuer l'impact des fluctuations des marchés sur votre capital. À vous de choisir avec votre conseiller ce qui vous correspond le mieux. Fréquence et montant des versements, support d'investissement.
Pour bien choisir ses placements, il faut être bien accompagné. Caisse d'épargne, vous être utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital. Renseignez-vous en agence. Contrat d'assurance vie distribué par votre caisse d'épargne, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS.
Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Il est 7h09 sur Europe 1. La suite du journal, Hélène Zélani.
La marée du Covid continue à monter. 278 nouveaux malades en réanimation en 24 heures. 163 décès. Situation sanitaire de plus en plus inquiétante et conséquences économiques. Les associations qui viennent en aide aux plus démunis sont débordées.
Un raz-de-marée de la misère, selon le Secours Populaire. Dans les Côtes d'Armor, par exemple, de nouveaux profils se présentent dans les locaux de l'association à Saint-Brieuc. Des personnes comme Emmanuel, qui travaillent et n'auraient jamais imaginé se retrouver là. François Coulon l'a rencontré.
Elle n'avait jamais tendu la main. Il y a 4 ans, Emmanuelle, veuve et mère de 2 enfants, monte sa micro-entreprise de médiation animale dans des EHPAD. Un vrai succès que vient fracasser le Covid. Le revenu familial s'effondre, 800 euros. Les aides de l'État ne comblent pas les retards de paiement des employeurs. Emmanuelle franchit pour la première fois de sa vie les portes du secours populaire.
C'est surtout mon orgueil et ma fierté, c'est dur quoi, c'est très très dur. On rentre dans une classe sociale qu'on n'aurait jamais imaginée quand on dit vulgairement il y a des gens qui sont des cas sociaux, ben en fait je suis dedans quoi. Et là ça fait mal. Je comprends pas qu'est-ce que je fais là. Je reviens pas d'être obligée de demander de l'aide en fait au secours populaire pour pouvoir manger. Alors que je travaille, ben, c'est particulier quoi. Je me dis qu'est-ce que je vais faire demain en fait. J'ai honte, hein. Il y a que 2 personnes dans ma famille qui savent que je vais au secours populaire. J'ai le paraître, mais j'ai plus le portefeuille qui va avec. Je pense que n'importe qui peut vite basculer en fait dans la précarité. Hein.
Jamais le secours populaire n'avait accueilli autant de bac plus 2 ou 3 dans les Côtes d'Armor. Saint-Brieuc, François Coulon, Europe 1.
Conséquence économique du Covid, la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific annonce qu'elle va réduire ses effectifs d'un quart et fermer une filiale. 8500 emplois au total seront supprimés.
Le football à présent, méconnaissable. Titre l'équipe ce matin avec une photo de Kylian Mbappé dépité sur la pelouse du Parc des Princes. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont raté leur retour en Ligue des Champions.
Et oui, défaite 2-1 face à Manchester United. Les Parisiens, finalistes l'an dernier, se retrouvent déjà en position délicate. Julien Froment.
Un fond de jeu inexistant, de la fébrilité en défense et de l'inefficacité en attaque. Le Paris Saint-Germain ne pouvait pas faire pire pour débuter sa campagne européenne. Cette défaite à domicile en phase de groupe, c'est une première pour les Parisiens depuis 16 ans. Face à un adversaire Manchester, ultra réaliste à défaut d'être flamboyant, l'entraîneur Thomas Tuchel ne s'explique pas cette déconvenue.
Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. On a eu beaucoup de problèmes, spécialement pendant les premières mi-temps, c'est clair. Oui, voilà, c'était aujourd'hui comme ça. On a eu des difficultés de trouver des solutions. On a eu des problèmes de trouver le spirit nécessaire en Ligue des Champions. Et maintenant, c'est plus difficile qu'en avant.
Malgré ce faux départ, le Paris Saint-Germain conserve encore toutes ses chances de qualification. Mais ces 2 prochaines semaines, que ce soit en Turquie à Istanbul ou en Allemagne à Leipzig, le club de la capitale n'aura plus le droit à l'erreur.
Et dans l'autre match de la soirée, le Stade Rennais a fait match nul face aux Russes de Krasnodar 1-1. Ce soir, l'OM se déplace en Grèce sur le terrain de l'Olympiakos. Coup d'envoi à 21h et on suivra aussi le choc entre le Bayern de Munich et le tenant du titre, l'Atlético Madrid.
Merci beaucoup Hélène Zélani. Oui, on va retrouver le Bayern de Munich qui avait battu le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Hélène Zélani, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.